France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment heureux de retrouver Madame Joëlle Gayot ce soir. Journaliste, critique, théâtrale au journal Le Monde, qui a eu la gentillesse de prendre du temps pour pouvoir poursuivre nos échanges sur le théâtre et avoir le privilège de parler avec une femme qui tous les soirs va au théâtre et aime ce métier avec des interrogations merveilleuses et en même temps avec une grande science de ce métier qu'elle fréquente depuis si longtemps. Et on a parlé évidemment du théâtre de Louis Jouvet, des femmes savantes de Molière, là ça va être sur les femmes savantes. Et c'est drôle parce qu'on a terminé le Misanthrope par cette phrase étonnante d'Alceste, j'aurai le plaisir de perdre mon procès. Je verrai si dans cette plaiderie, les gens auront assez d'effronterie. Le mec qui est content de perdre son procès, c'est merveilleux. Alors là, on se lance sur un texte, sur un témoignage sur le théâtre de Jouvet. Et est-ce que vous avez des questions, Joëlle ?
D'entrée de jeu comme ça, témoignage sur le théâtre, c'est un texte sur la vocation, je crois.
Voilà. Hein ? Alors, vous voulez que je le lise maintenant ?
Oui, comme ça.
Alors, il ne faut pas parler de vocation pour les comédiens. Seuls les poètes en ont une. Bon, ça engage Jouvet. Hein. Pour nous, la vocation est un mélange extrêmement douteux de toutes sortes de sentiments qui ne sont pas tous nobles. Loin de là, je ne crois guère à la pureté de la vocation, et je dirais même chez les saints. La vocation est un résultat. Elle résulte de goût, d'ambition, de désir d'autant moins pur qu'il se manifeste à l'âge de tous les appétits, à l'âge où l'on ne peut juger véritablement ni du métier ni de soi-même. Et là, c'est intéressant, la vocation n'est que le résultat de la pratique. C'est après avoir fait son métier pendant de nombreuses années, en avoir subi les déceptions, mesuré les difficultés imprévisibles, que s'affirme, se précise une décision qu'on peut appeler alors vocation. La vocation n'est qu'un choix persistant. Ça, c'est admirable. La vocation n'est qu'un choix persistant. Les vraies récompenses qu'elle accorde sont toutes intérieures et bien tardives. En un mot, la vocation des jeunes, pour lui, il y croit qu'à moitié. Mais la vocation des mecs qui ont 30 ou 40 ans de boulot, il y croit plus.
Mais c'est un peu existentialiste, non, comme approche. On ne n'est pas comédien, on le devient. Vous connaissez Sartre ?
Oui, bien, l'aimez bien. Petit peu. Je connais mal. C'est surtout, je dirais, chrétien. Ou c'est pas ni chrétien ni existentialiste, mais c'est peut-être que si au bout de 30 ans, tu prends du plaisir à aller au théâtre, au-delà de la vanité narcissique, qui est très importante, extrêmement importante, même à 70 ans, il y a dans l'acte de jouer au théâtre un renvoi narcissique énorme. Parce qu'il y a 1000 personnes, là je joue au théâtre de la Porte-Saint-Martin, c'est quand même pour des gens anxieux, puisque n'oublions jamais la phrase de Jouvet, pour des tempéraments anxieux, y a un témoignage, des applaudissements, ça recharge les batteries, qui sont surtout des batteries certainement à base dépressive. Je pense qu'avoir autant besoin d'être aimé, qui est un symptôme de l'enfant, et qui se prolonge chez les comédiens, enfin chez moi, je ne vais pas attaquer les autres comédiens, jamais de la vie, mais il y a un besoin. Mais il faut reconnaître qu'il y a cette impureté de besoin d'être aimé, mais si tu en restes là et que tu viens uniquement pour avoir un miroir narcissique et que tu réduis le public à être un renvoi de toi-même, là tu es irresponsable et tu es indigne d'être sur une scène. Parce que pour être sur une scène, il faut être porteur d'un projet. Le projet, c'est de servir un texte. Si tu penses que c'est que ta pomme qui compte, là, il faut aller te coucher, mon chéri. Et la vocation, après 50 ou 60 ans, si elle est encore là et que tu dis, tiens, demain, dans la nuit, en t'endormant, même si tu dors mal, tiens, comment j'ai géré ce lien entre le moment où il perd sa fille dans Hugo. Tiens, demain, je vais peut-être la réarticuler différemment. Si tu continues à travailler, ce qui est le minimum d'un acteur de théâtre, c'est de travailler tout le temps, de travailler sa diction le matin, de travailler en marchant, de travailler en rêvant, de travailler en dormant, eh bien, là, tu offres au public quelque chose.
Mais est-ce que ça suppose des sacrifices ?
C'est des termes excessifs. Il y a des gens qui ne sont pas doués pour la vie. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas doué pour la vie. J'ai pensé, comme Guitry, qu'il n'y a rien de plus amusant que de travailler. Mais ça, c'est Guitry qui dit ça. Et ça, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui détestent leur travail et je le respecte. Mais moi, je m'ennuie dès que je travaille pas. Et l'ennui, c'est terrible. C'est un sentiment où l'instant n'a pas de sens et celui qui va venir est encore pire, dit Cioran. Donc, l'ennui, c'est un truc terrible. Baudelaire en a magnifiquement parlé. Et quand même, mine de rien, travailler, aller au théâtre. Ce qui est merveilleux dans le théâtre, ce qui est sublime, c'est que on ne peut pas passez-moi le Jouvet, le comédien désincarné.
Le comédien désincarné.
Document clinique. Vous savez, cette phrase merveilleuse où il ouvre le livre par cette phrase étonnante. Document clinique d'un esprit anxieux chez un homme pour qui l'amour du théâtre est inséparable d'un sentiment de fraternité. Cette fraternité dont on nous rabat les oreilles, abstraite, un mot vide. Le moment du théâtre. Où il y a ces 1000 personnes ou ces 600 personnes qui vivent quelque chose qui appartiennent à une communauté. Alors, je ne veux pas mettre des mots excessifs.
Mais lui, il parle de tendresse. Hein. Il parle aussi de tendresse quand il parle de théâtre. Jouvet dans Témoignages sur le théâtre.
Oui, de tendresse. Oui. Mais n'importe comment, cette phrase est extraordinaire. Le théâtre, pour lui, est un acte de fraternité avec les hommes. Mais pas les hommes en train de bouffer au resto. Il ne faut pas parler au public en sortant de scène. Ils sont photographiés à un moment où le meilleur d'eux-mêmes est là. Mais si, en sortant, vous écoutez les commentaires, vous êtes accablés. Au fait, tu t'es garé où, toi ? Nous, c'est clair, on emmène les gosses à la montagne. Quelques minutes après, le moment est émerveillé. Le moment où il y a une transcendance dans Beaux Endormis, par exemple. Et là, c'est là où ils sont fraternels. Mais pas après, il ne faut pas les voir. Ça, Pierre Vanneck m'avait toujours dit, n'écoute jamais ce qui se dit après une pièce. Ou plus exactement, c'est ce que m'écrivait Emmanuel Carrère au téléphone, je crois ne pas le trahir, il est venu voir le Hugo lundi. Je lui ai dit, tu sais, Jouvet dit que comment on est sûr qu'une pièce de théâtre a été réussie, c'est si le lendemain matin, en prenant l'autobus, vous voyez un couple qui s'embrasse. Et si vous voyez que ce couple vous rend heureux parce qu'il s'aime, eh ben c'est que le spectacle a été réussi.
Jouvet raconte aussi dans Témoignages sur le théâtre, qui est un recueil que je trouve absolument délicieux, qu'il joue Don Juan et il fait état de tout ce qui se raconte sur Don Juan et son coiffeur lui dit « Il paraît que vous êtes formidable en Casanova
». Oui, parce que pour lui, évidemment, Don Juan, c'est pas un tombeur de femme.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que chacun s'approprie le texte, le rôle, et chacun a une idée sur le rôle. Et c'est le cas des femmes savantes. Les femmes savantes, quand c'est mis en scène de mille et une manières.
Oui, parce que le grand théâtre classique du XVIIe, dit Jouvet, offre toutes les interprétations possibles. En tout cas, moi, par exemple, je m'opposerais, si je la montais, ça n'engage que moi, à les ridiculiser. Moi, je les trouve merveilleuses. Et je trouve les hommes médiocres. Et les femmes sont extraordinaires. Regardez cette scène.
Alors, allons-y.
Ça, c'est la première scène que j'ai appris avec Henri Tizot et Jean-Laurent Cochet. Donc, c'est le départ d'une pauvre femme de ménage que le pauvre Chrysal, le mari de Philaminte, c'est-à-dire le mari de la patronne des femmes savantes, est obligé de renvoyer. Il la renvoie et revient. Et ça va être le début d'une catastrophe puisqu'il va dire ces mots. Vous êtes satisfaite. Et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. La Philaminte dit, vous voulez que toujours je l'aie à mon service, pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison, par un barbare amas de vices de raison, de mots estropiés cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des halles. Alors tout le monde s'y met en disant qu'elle parlait mal le français parce qu'elle disait « grand-mère » au lieu de « grammaire ». Et là, il en a marre, le Chrysal, il dit « j'aime bien mieux pour moi qu'on épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Vaugela n'apprend point à bien faire un potage. » Et Malherbe et Balzac, c'est pas les Malherbes, c'est pas le Balzac qu'on connaît, hein, c'est le 17e là. Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine, peut-être auraient été des sots. Alors sa femme le regarde et lui dit que ce discours grossier terriblement assomme. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme. Alors elle lui dit qu'un homme c'est un truc extraordinaire. Moi, elle lui dit que le corps c'est de la guenille. Elle lui gueule, il dit mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. Et tout le monde lui dit oui, mais tu comprends, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du sucre de la science. Et il dit, ma foi, si vous songiez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse à ce que chacun dit. Ça y est, il leur envoie des vacheries. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude. Ah, et là j'adore Philaminte, après avoir entendu sollicitude. Ah, sollicitude à mon oreille érude. Il pue étrangement son ancienneté. La sœur dit, il est vrai que le mot est bien collé, monté, et là il va craquer. Voulez-vous que je dise, il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. Il veut décharger sa rate. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur, comment donc ? Oui, c'est à vous que je parle, ma sœur, et la chrysale va se lancer dans un texte. Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et aura un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez jeter tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Motée pour faire bien du grenier de séance, cette longue lunette qui fait peur aux gens, et sans brimborion, dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, nous voyons aller tous en dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête. Et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de choses. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur tact entretien, et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs, elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et c'est en beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi, or ce qu'il faut savoir. On y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. Le pot, c'est pour glacer la bouffe. Hein, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire raisonner l'emploi de toute ma maison. Et le raisonnement bannit la raison. L'un me brûle mon roux en lisant quelque histoire. L'autre rêve à des verres quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi. Et j'ai des serviteurs et ne suis point servi. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point affectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler Vosgelas, je vous le dis, ma sœur, quand tout ce train-là me blesse. Car c'est comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin. Là, c'est la révolte. Il ne peut plus supporter les intellos. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Tristan. C'est lui qui, dans ses vers, vous a tympanisé. Tout ce qu'il dit sont des bivesées. Le miracle, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois, pour moi, le timbre est peu fêlé. Pourquoi je trouve ça génial ? Parce que vous entendez cette phrase ? On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. C'est le bon sens, merveilleux, mais pas le bon sens réducteur. C'est pas le bon sens près de chez vous. C'est le bon sens organique. Il y a des gens qui parlent, on les comprend pas. Eh ben, il le dit, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Il comprend pas la télo. Qui est une ordure en plus, celui-là. Hein, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et après, c'est, pour moi, c'est moins génial. Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé, ça, c'est efficace. Mais la phrase, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. On le voit, quoi. Il donne à voir. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Et là, sa femme le regarde avec du mépris et dit « Quelle bassesse, au ciel, et d'âme et de langage. » Elle l'aime plus, hein. Là, vraiment, sans développer, elle le méprise. Parce que, comme dit Roland Barthes, il n'est plus à la hauteur du désir qu'elle a créé sur lui. Tu t'en rends ce qu'elle dit? Parce que derrière tout ça, si je le mettais en scène, je montrais un couple qui est en fin de sexualité, sans le montrer, mais je montrerais qu'elle le méprise. Et pourquoi elle a cherché dans les lettres à ce point-là? Parce que ce personnage est totalement décevant. Il est sioranesque. Ça permet de... Tu comprends ce que je veux dire? Et Bélise, la sœur, dit « Est-il de petit corps un plus lourd assemblage ? Un esprit composé d'atomes plus bourgeois ?» Et c'est racinien. « Et de ce même sens peut-il que je sois ? Je me veux mal de mort d'être de votre race. » Et de confusion, j'abandonne la place. Bon, alors c'est merveilleux de voir Joëlle Gayot parce qu'elle est au spectacle.
C'est vrai.
Quelle impression vous avez de ce texte?
C'est-à-dire que j'ai une impression de vous disant ce texte. Et moi, elle me fait très peur, Philamint.
Ah oui?
Je la trouve terrifiante.
Et Henriette est la plus simple, la plus normale. Moi, je les sauverais parce qu'elles veulent atteindre. Elles ne supportent plus son mari. Il est décevant. Alors, elle a transféré dans la science.
Oui. Mais enfin, c'est quelqu'un qui dit qu'à un moment, elle aimerait le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Ça, c'est Philaminte qui formule ce vœu.
Mais lui, qu'est-ce qu'il dit, Molière? C'est très compliqué à savoir. Il est de quel côté, Molière? Par exemple,
Il est de son côté, à lui. C'est certain.
Au bonhomme?
Non, de lui, du côté de Molière. Il est de son côté, à lui, sans jamais être du côté d'aucun de ses personnages, me semble-t-il. Non?
Par exemple, dans Alceste et Philinte, il est où, Molière?
Je crois qu'il est les deux.
Il est les deux. Alors, dans Les Femmes Savantes, il serait où?
Mais je pense qu'il est tout le monde. C'est-à-dire qu'il est à la fois Clitandre, qui ne supporte plus ces femmes qui veulent lui voler sa bonne, qui lui fait bien à manger. Et puis, il est aussi Henriette, qui rêve d'une vie très tranquille. Et puis, il est aussi Philaminte.
Et peut-être Armande.
Et peut-être Armande, qui, elle, veut être éduquée.
Tu vois, le génie, c'est peut-être ça, un génie.
Et pas le talent.
Ah oui, plus que du talent, c'est vraiment le génie pour suivre Peggy.
On va peut-être écouter un petit peu de musique. Ouais. Fabrice Lucchini, je crois que c'est Otis Redding, Is a Little Tenderness.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. But the soft words they all spoke so gentle, yeah, it makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Yeah.
je vous observe, Fabrice Lucchini, en train de dire ce texte des femmes savantes, et tout votre corps est mobilisé. Les auditeurs ne le voient pas, puisque c'est de la radio, mais tout votre corps est là. L'engagement, il est absolu. Il y a une phrase de Novarina qui s'interroge, Valère Novarina, l'auteur contemporain, sur l'endroit où les mots agissent à l'intérieur d'un corps. Que font les mots au corps de l'acteur? Est-ce qu'ils travaillent les viscères? Est-ce qu'ils déplacent les reins? Est-ce qu'ils accélèrent le sang? Comment ça agit en vous, ce passage des mots?
Il faut que, grâce aux mots, on éprouve la nécessité d'avoir envie de les dire. Ça veut dire qu'on ne doit jamais dire des mots, on ne doit jamais jouer les mots, on doit passer notre temps à comprendre quelle est derrière les mots la vitalité émotionnelle qui les a mis au point. Ça a l'air de rien, mais c'est gigantesque. Ça veut dire que le mot nécessité, dont parlait mon prof, dont parle Jouvet, il faut éprouver la nécessité d'avoir envie de dire les mots dont t'as la responsabilité. Cette nécessité, tu ne peux la trouver que en pratiquant la matière des mots. Cette matière va produire en vous des sentiments, des sensations. Il faudra les fixer. Et une fois qu'ils seront fixés, tu ne seras pas là en train de jouer sur les mots. Tu seras en train de demander à ton corps de provoquer le sentiment. C'est très idéalisé, hein, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Et tu dois demander à ton corps... Et des fois, c'est beaucoup moins compliqué que ça. Par exemple, les mots, c'est le matériau le plus beau qui existe. Et quand on joue Victor Hugo, Beaux endormis, on est nourri pour des années et des années. Le mot, faut faire attention parce que le mot n'a d'intérêt que quand il t'emmène à l'état dans lequel l'auteur était quand il a eu. Et on n'y arrive jamais. Si vous comprenez que c'est pas les mots qu'il faut jouer et qu'il faut trouver la nécessité de les dire. Alors, je donne un exemple. C'est bizarre parce que je suis à la radio. Jouvet disait, regardez un tireur à l'arc. Il tire, donc là, les auditeurs peuvent entendre. Il tire la corde. D'accord? Et quand il tire très loin, il va lâcher la corde et la flèche va partir. La thèse de Jouvet, c'est que la flèche, quand elle arrive dans la cible, c'est la fin du parcours. Et c'est le mot, c'est la phrase, c'est le vers. Mais qu'est-ce que doit faire l'interprète ou le comédien, le serviteur de l'écrivain? Eh bien, il faut qu'il retrouve, par un simulacre émotionnel, la force musculaire qu'a entraîné l'auteur. C'est-à-dire, il faut qu'il retrouve le moment où l'auteur a tiré. La phrase, c'est la fin. La phrase, c'est la mort. La phrase, les mots, c'est fini. C'est pas ça qui est intéressant. C'est fini quand c'est sur la cible. Ça veut dire quand il y a la phrase toute faite. Eh bien, c'est fini. Donc il faut trouver, par un travail énorme, d'où vient l'envie de l'écrivain de l'avoir écrit.
Et ça veut dire quoi? Lire, relire, relire encore? C'est ce que faisait Bouquet, d'ailleurs, Michel Bouquet, qui est aussi un grand maître.
Ça a été mon Dalai Lama. Il faut épuiser toutes les intentions, car quand tu joues, tu veux tellement mettre de choses. Et le meilleur état, c'est la fatigue. La fatigue t'entraîne à un état d'abandon. Et là, au moins, tu ne mets plus de choses sur le texte. Mais là aussi, c'est utopique, c'est très compliqué. Il n'y a pas de science sur le théâtre. On ne sait rien sur le théâtre, comme dirait Jouvet. Rien n'est plus vrai, rien n'est plus faux que le théâtre. Et c'est une énigme, parce que rien n'est concret. On approche par rapport... Tout chote des trucs. En tout cas, évidemment, pour que le texte devienne toi et que tu essayes de le moins trahir possible. Et ça passe par une obsession. C'est pas de le savoir par cœur intellectuellement. C'est de voir comment ce texte, quelle est sa structure, quelle est son énergie. Le Corneille n'est pas pareil que Molière, La Fontaine n'est pas pareil que Molière. Donc, vous comprenez, quand La Fontaine dit « tout est mystère dans l'amour », ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle, que voici, c'est un dieu, comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien ? J'en fais juge un amant et ne décide rien. Voilà, ça c'est une structure du XVIIe, mais elle est très parlée, alors que c'est très écrit. Et puis Corneille ou Racine, tu dois résoudre le problème de Racine, qui n'est pas du tout le même que La Fontaine. Donc, évidemment, si vous me posez la question, il faut travailler, c'est même plus travailler, c'est coucher avec le texte. C'est un peu un truc de gens déséquilibrés, un mec heureux. Parce que comment être bien dans notre vie avec tout le temps cette espèce de truc? Comment obtenir le silence intérieur? Comment être, quand t'as pas la chance d'être bricoleur, de réparer les vieilles bagnoles, comme le monsieur qui m'emmène en voiture, il adore réparer les bagnoles. Il m'emmène partout et j'arrête pas de lui proposer de venir écouter quand on est en tournée mes spectacles. Il dit, oh non, non, moi ça m'emmerde. Il veut pas venir, même gratuitement. C'est un mystère, tout ça. Lui, il est très heureux. Évidemment qu'il est très heureux. Réparer un moteur, c'est concret. Travailler les femmes savantes, c'est plus bizarre.
Est-ce qu'il y a quand même... J'entends que le mot, c'est l'aboutissement, c'est la fin. C'est la mort, quasiment. C'est la mort de ce qui a précédé, de tout
voilà,
le travail de du comédien.
Mais c'est la fin de l'impulsion.
Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des mots qui vous sont... Quand je dis des mots, je dis évidemment des textes hein, derrière, qui vous sont impossibles à dire, auxquels vous êtes littéralement réfractaires, face auxquels vous allez opposer une telle résistance que ça ne pourra pas venir. Par exemple, pourquoi est-ce que vous ne faites pas Cyrano de Bergerac? On se dit, Fabrice Luchini, c'est Cyrano. À ma connaissance, jamais.
Non. Il y en a pas mal qui le font. Les vers de Cyrano, très efficaces, ne demandent pas, c'est mon côté scorpion qui cherche la difficulté, les vers de Cyrano ne demandent pas le même travail, même si c'est un vrai truc, hein, mais les vers de Racine ou les vers de Molière, là, ça demande, ça doit être un ego que j'ai à vouloir aller dans les choses très très difficiles. Je ne dis pas du tout que Cyrano de Bergerac est facile. Rien n'est facile. Il y a une phrase merveilleuse de Jouvet, ne considère rien comme inférieur. La biche n'est pas inférieure. Eugène Labiche n'est pas inférieur. Rien n'est inférieur au théâtre. Labiche, je l'adore, moi. Alors, je serais plutôt, je vous répondrai, Joël, que je parlerais plutôt des bonheurs que les mots me produisent. Quand tu es nourri par Hugo et que tu dis « La respiration de Bose se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait, l'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament. » Tu comprends? Quand tu dis « tout reposait » et « galgala » et quand tu dis ces mots, je dirais plutôt qu'il y a peu de mots dans Hugo qui sont pas réjouissants. Voilà, par exemple, Hugo, c'est vraiment réjouissant. Le génie de Molière, c'est pour ça qu'on pourra l'illustrer à travers cette scène extraordinaire des deux couillons, Trissotin et Vadius. C'est étonnant.
Je crois qu'il faut qu'on entende.
Alors,
Trissotin et Vadius.
C'est une scène.
C'est vrai qu'elle est épatante, cette scène.
Pour moi, c'est une scène d'un très haut niveau comique. Alors, je la fais rapide. Trissotin, c'est un objet sexuel pour la femme savante, c'est-à-dire la patronne de la maison, dont le mari supporte plus rien, on l'a fait tout à l'heure. Et puis, toutes ces femmes lisent, à part Henriette, qui, elle, est très normale, très heureuse, et veut des enfants, etc., etc. Et puis, à un moment, la patronne veut marier sa fille à ce fameux Trissotin. Et il y a une scène où Trissotin va emmener un pote à lui, ça va commencer dans des compliments absolument déments, et ça va se dégrader comme jamais dans l'histoire. C'est-à-dire, on voit un serviteur qui rentre et qui dit « Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous, il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. » Tu vois la facilité de l'écriture pour Molière, il y a besoin juste d'une articulation entre les scènes. Alors, Trissotin répond « C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance de lui donner l'honneur de votre connaissance. » Alors la femme, Philaminte, dit « Pour le faire venir, vous avez tout crédit. » Elle est folle de lui. Hein. « Pour le faire venir, vous avez tout crédit. » Allez, faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Elle demande à tout le monde de bien se mettre parce qu'il y a un grand intellectuel qui débarque. « Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir, » dit Trissotin. « En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. » Alors il va présenter son pote Vadius, elle répond tellement sexualisée d'amour vers lui, la main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France, du grec. Oh ciel, du grec. Il sait du grec, ma sœur. Bélisse dit, ah oh, ma nièce, du grec. Armande dit, du grec. Quelle douceur. « Quoi ? Monsieur, c'est du grec ? Ah, oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. » Alors là, Henriette, elle veut se barrer, et l'autre lui dit « Alors allez-y, dit Trissotin. Evanus répond, je crains. Alors, oh, je vais l'imiter comme Henri Roland, qui était un très grand professeur du conservatoire, qui a fait une grammaire de la diction absolument extraordinaire. Il avait une voix, il surarticulait. Peut-être, je ne le connais pas, je ne veux pas dire du mal. C'est un grand homme de théâtre. Je crains d'être fâché par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. J'aurais pu trembler quelques doctes entretiens. Elle lui répond, la femme, « Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. » Trissotin intervient, « Au reste, il fait merveille hein, en vers ainsi qu'en prose. » Et pourrait, s'il voulait, nous montrer quelque chose. Vous voyez, ça a l'air de rien, cette phrase. Mais c'est le génie de Molière. On a l'impression qu'on va dans des dîners de famille où il y a quelqu'un qui dit « Allez, tu nous la chantes, la petite chanson, toi hein ?» Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose. Et pourrait, s'il voulait, nous montrer quelque chose. Vadius, le défaut des auteurs dans leur production. En gros, il dit que c'est pas bien du tout. D'un grec là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Il dit, ça c'est les ringards qui disent leur texte, puis tout d'un coup il continue, voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Bon, il dit exactement le contraire de ce qu'il fait. Au moment où il va commencer, Trissotin va l'interrompre et va dire, vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Alors, il est déstabilisé, Vadius. Il allait commencer. Alors, il répond, les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Trissotin reprend, vous avez le tour libre et le beau choix des mots. Alors, Vadius répond, voit partout chez vous l'éthos et le pathos. Trissotin dit, nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passent en tous attraits Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux, qui laisse bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien avoir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux? Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux? Aux ballades, surtout vous êtes admirables. On dirait deux mondains. Aux ballades, surtout vous êtes admirables, Evadius répond. Et dans les bourrimis, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Et l'autre continue, si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une ballade. Il en a marre, là, Vadius. Il y a un c'est une ballade. Et je veux que tout net. Avez-vous vu, et là c'est le drame qui va commencer, Trissotin, je vais vous le faire très très hystérique, mais comme ça vous verrez bien les deux. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Vadius répond, oui, hier, il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais très bien qu'à ne point flotter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'y suis point du tout. Et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblant. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Imagine, hein? Tu es à côté d'un auteur très connu, tu dis, vous avez lu le dernier Intel? Ouais, je l'ai lu, c'est de la merde. Non, beaucoup de gens trouvent génial, je vous dis que c'est de la merde. C'est très embêtant parce que c'est moi qui l'ai écrit. Vous? Moi. Et là, c'est génial comment il se raccroche aux branches. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. Et lui répond, c'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade à mon goût est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle s'en son vieux temps. La ballade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Et là, ça va commencer. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. L'autre répond fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Et là, ça se dégrade. Allez, petit grimaud barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balle au propre du métier. Trissotin dit allez, fripier d'écrit, imprudent plagiaire. Ils vont aller cuisse, ils vont commencer à se casser la gueule. La fille, la main se lève et dit, messieurs, que prétendez-vous faire? Et la Trissotin reprend, va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Et là, j'adore, Vadius se met à hurler, va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace.
Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit, dit Trissotin. Evadius répond cette phrase géniale, et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Et là, ça monte, et c'est la fin de la scène. Mais c'est un moment merveilleux.
Vous savez quoi, Joël? C'est la vie organique. Mm. Les êtres ne parlent pas en psychologisant intellectuellement, ils sont organiques. On a le droit de dire un mot encore?
Je crois qu'on arrive au bout.
D'accord.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Je remercie pour cette émission, évidemment, Joëlle Gayot, qui vraiment, j'aurais voulu plus parler avec elle, mais il fallait dire des textes. Xavier Pestugia à la réalisation, Corentin Rouchy à la technique, Thierry Dupin pour la musique, et encore, et toujours, et surtout, Emmanuel Garacino. Bonne soirée, et à la semaine prochaine.